Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le quotidien vous semble monotone, vous avez l'impression que vos relations n'avancent pas, vous finissez par voir la vie comme un perpétuel cycle, aller au cinéma. Vous n'êtes pas convaincu, alors cette émission est pour vous. Aujourd'hui, pour le grand écran de Vivante Église, trois films à l'affiche, Vent du Nord, Secrets et Mensonges et Exodus, Gods and Kings. Trois films qui font réfléchir certes, mais surtout qui montrent qu'impossible n'est pas français. Le grand écran de Vivante Église, c'est donc le thème de l'émission de Vivante Église de ce matin avec Louis-Marie Soler, himself, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse. Bonjour Louis-Marie.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Où est passé Paul Dima, on se le demande.
Bah
heureusement,
oui.
Je l'ai annoncé ce matin, votre compère n'est pas là, voilà, il a le droit d'avoir une vie personnelle. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes tout seul. Je vais vous aider, même si vous êtes la maestro du cinéma, on va essayer d'avancer ensemble. Alors, premier film à l'affiche, je le rappelle, pour ceux qui n'auraient toujours pas compris, c'est normalement le film qui est l'objet d'un ciné-parole, ce ciné-débat à l'ABC, au cinéma d'art et d'essai l'ABC à Toulouse, organisé conjointement par les Coteaux Païs, ce centre spirituel jésuite. Aujourd'hui, vous voulez nous parler de Vent du Nord. Ça sera donc le premier film dont on va parler. Vent du Nord est un film d'un certain Walid Matar. Je propose qu'on commence par écouter la bande-annonce de ce film et on va en parler.
Nous souhaitons nous entretenir avec vous des modalités de votre départ.
L'usine va fermer ou pas? T'es au courant?
Non. L'usine va être délocalisée.
Ça te dérange pas quand tu as fait que tu as mis tout le monde. Je suis chez les
هاني قريب نسكر الشهر سافا انت
قد ايه بو يمشي ويجي مع كريمة تو يكبش اكثر
Vous pensez simplement à faire votre boulot en obéissant aux ordres sans vous poser de questions.
Ça va être des pauvres qui vont taper sur d'autres pauvres.
Ouais, je m'en fous, je retournerai pas à l'usine, d'accord?
Bien sûr que si, faut que tu te battes. Comment tu vas faire pour ton boulot?
Ouais, j'ai ma petite idée.
Les avantages de l'auto-entrepreneur sont simplicité de déclaration, comptabilité minimale et un régime social avantageux.
Moi, ce que je veux, c'est développer une gamme de produits en tout genre à base d'aloe vera.
Vous, monsieur?
Moi, je veux être pêcheur et vendre mon poisson.
Pour pêcher, on ne peut pas être auto-entrepreneur.
C'est vraiment le brin pour l'emploi.
Il faut créer une SARL, hein, et vous avez besoin d'une formation. Hein.
T'as assuré, papa, c'est la révolution.
Et ça vaut le coup parce que le kilo de bar, pour le faire à 7 euros au lieu de 18. Hein.
Voilà, Vent du Nord, je vais vous laisser le présenter, puis après je donnerai les quelques commentaires, comment dire, ce matin j'ai un petit peu de mal, les quelques critiques que j'ai relevées dans la presse. Louis-Marie Soler, l'histoire du film.
Bien, c'est l'histoire d'Hervé, vous l'avez peut-être compris dans cette bande-annonce, Hervé a passé pratiquement une vie, pratiquement 40 ans, à découper du cuir pour faire des chaussures, jusqu'à ce qu'il apprenne que l'usine dans laquelle il travaille va être délocalisée. Et à ce moment-là, ben lui, qui a été toujours un petit peu décalé par rapport à ses camarades, les autres employés de cette usine, on le remarque bien parce qu'il est toujours, et c'est normal, devant sa machine avec un casque anti-bruit pour se protéger les oreilles, mais c'est aussi une forme de métaphore de l'isolement de cet homme, à la fois dans son travail et par rapport à aux gestes répétitifs qu'il a à faire. Et donc, lui va pas se ranger du côté de ses camarades qui veulent lutter, se battre pour que l'usine ne soit pas délocalisée. Lui, il va prendre la prime de licenciement pour réaliser un rêve qu'il a depuis toujours. Il pense s'installer en tant que pêcheur pouvoir pêcher, puisqu'on est dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais. Donc il va aller pêcher dans la mer du Nord, ou la Manche, et ainsi gagner sa vie et faire enfin ce qu'il avait envie de faire.
Alors le cœur de l'intrigue aussi, c'est qu'il y a un parallèle, puisque l'église, oula, vous voyez,
l'usine.
L'usine, lapsus révélateur, l'usine est délocalisée, et inopinément, un jour, il va croiser celui qui va presque place pour place faire son travail, c'est ça ?
Oui. C'est-à-dire que l'originalité du film de Walid Matthar, c'est de balancer entre deux lieux, puisqu'on va suivre, à partir du moment où l'usine va fermer, eh bien, le trajet des machines, parce qu'on prend les machines et on va voir un bateau traverser la Méditerranée et ces machines vont arriver en Tunisie, là où l'usine va reprendre sa production avec de la main-d'œuvre tunisienne. Et en fait, on va suivre l'homme, Foued, qui va se mettre devant même la machine devant laquelle Hervé se trouvait quand il a travaillé dans cette usine dans le Pas-de-Calais. Et donc, on va balancer entre ce qui se passe pour Hervé et sa famille et ce qui se passe pour Foued et la sienne. Et à un moment, effectivement, ils vont se croiser, mais il n'y a pas de... Le seul moment où ils vont se croiser, c'est quand Hervé et sa femme Véronique vont, grâce à un hasard, en fait, une opportunité qui les a amenés à avoir un voyage en Tunisie pour... pas cher, ridiculement peu d'argent, donc ils vont le faire. Et au hasard, le car qui les transporte en Tunisie pour les amener dans le lieu de vacances où ils vont passer cette semaine en Tunisie, ben ils vont croiser un autre car qui amène les ouvriers à l'usine et ils vont voir à travers la fenêtre, le regard d'Hervé et de Foued va se croiser. Mais c'est le seul moment où ils seront ensemble.
En tout cas, on touche du doigt ces réalités économiques et puis d'une certaine manière aussi... le sentiment d'absurdité qui peut saisir tout à chacun quant à ces nombreuses délocalisations ou excès d'un ultralibéralisme. Je ne dis pas que les deux vont forcément avec, mais en tout cas le rapprochement peut, la question peut se poser. On va écouter un extrait. C'est quand Hervé, quand on annonce à Hervé qu'il est sur le départ.
Bien. Alors, comme vous le savez, nous souhaitons nous entretenir avec vous des modalités de votre départ.
Mais c'est pas pareil pour tout le monde.
Vous avez 32 ans d'ancienneté, c'est pas tout le monde. Alors, nous vous proposons une indemnité de 30 000 euros.
Oui. Ça fait pas cher l'année, hein.
Vous savez, c'est un traitement de faveur auquel tout le monde n'a pas droit. Alors, nous avons imprimé le protocole d'accord. Tenez, vous le lirez tranquillement.
Oui. 40 ?
Nous faisons déjà un geste, monsieur Lepoutre. Vous savez, pour nous aussi, c'est très dur. On n'y arrive plus avec la concurrence mondiale. Cette offre n'est pas gravée dans le marbre. Il vaut mieux la saisir tout de suite. Après, ce sera un licenciement économique avec des indemnités bien plus limitées.
Alors dans cette scène, il y a pas mal de choses. Évidemment, on touche du doigt peut-être ce qui n'est pas arrivé à tout le monde. Donc déjà, ça permet de rentrer dans ce type de réalité. On peut avoir un sentiment de profonde déshumanisation. Hein, 32 ans de boîte et un entretien de départ comme ça, ça peut paraître très, très formel. On peut trouver ça aussi un peu caricatural en se disant il y a les méchants, les gentils. Peut-être que les méchants, en l'occurrence, ils font aussi leur job. C'est peut-être pas si facile pour eux que cela. Bref, ça fait penser aussi aux nombreuses fois où à cette antenne, dans d'autres émissions, on fait écho aux propos du pape François quand il parle aujourd'hui de la culture du déchet. Voilà, d'un système économique qui est devenu un peu fou. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette scène, ou plus largement, les quelques scènes, parce qu'il y a plusieurs scènes comme ça absurdes dans le film.
Bah, c'est le, à la fois la façon dont ça se passe, c'est-à-dire, je disais, ces hommes qui déshumanisent sans le faire, c'est un discours assez rodé, c'est ça qui est un peu glaçant, parce que c'est un homme simple, Hervé, et on lui fait comprendre qu'on le traite pas comme les autres, parce qu'il a 32 ans de boîte. Ah, et il est surpris. Et quand il apprend la somme qu'on va lui donner, il remet les pieds sur terre, quoi. C'est-à-dire qu'il a bossé 32 ans devant cette machine, il s'est abruti devant cette machine, et on le considère... Voilà. Alors, on lui dit, oh oui, mais vous savez, nous aussi, on a des problèmes. On comprend bien les problèmes que peuvent avoir des entreprises comme celle pour laquelle il travaillait, mais C'est le cynisme.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme scène un peu absurde comme ça?
Alors, quand il choisit d'être entrepreneur ou autre. Là, c'est pas absurde, c'est cynique. Enfin, c'est dur, cynique.
Mais, c'est dur.
Mais alors, après, l'absurdité vient parce qu'il a une idée, donc, Hervé. Il veut utiliser cet argent pour se lancer dans un nouveau métier, dans la pêche, dans quelque chose qui lui plaît. Partir en mer, pêcher, et puis ainsi subvenir à ses besoins, à ceux de sa famille. Et donc, il va tout mettre, il va tout faire pour y arriver. Donc, il va se renseigner, faire les démarches administratives, il va vouloir devenir auto-entrepreneur, mais on ne peut pas être pêcheur en étant auto-entrepreneur. Alors, il va aller voir quelqu'un qui va lui dire bah, il faut que vous créiez une SARL, mais pour pouvoir créer une SARL, il faut avoir une formation à la fois de CAP. Gestion, CAP pour être pêcheur, et de gestion pour gérer les... Donc il lui faut un brevet professionnel, en fait. Mais il n'y a pas de stage. Donc il faut qu'il crée une SARL, mais il ne peut pas la créer parce qu'il n'y a pas de stage pour le former. Et puis après, il lui dit, bon, moi je veux bien passer le CAP, le brevet professionnel, il n'y a pas de souci. Mais alors, il lui dit qu'il est trop vieux. C'est plus possible. Alors là, oui, les situations sont ubuesques. Et là, il faut vraiment être très fort pour pas sombrer. Et c'est ce qui se passe pour Hervé, soutenu par sa femme, et puis avec les difficultés qu'il a avec son jeune fils adolescent.
On va écouter un deuxième extrait. Donc, il finit par avoir un bateau, il part en pêche, il part pêcher avec son fils. Et vous allez nous montrer à travers cet extrait peut-être la note particulière de ce film, qui est un film à caractère social, qui fait penser à d'autres. Peut-être qu'on pourrait les citer, les frères Dardenne, entre autres, ou Ken Loach. Voilà. Mais qui n'est pas misérabiliste. Vous allez nous expliquer ça.
Le conduire ?
Ben non !
Attends, moi je serais pas venu sinon.
Mais hé, quand tu veux conduire une bagnole, il faut un permis. Et ben là c'est pareil, on peut être contrôlé.
Là tu fais une petite lancée, t'as pas besoin de lancer très loin. Après, t'attends que ton plomb il touche le fond. Voilà, quand il touche le fond, hop, tu mets 2-3 petits tours, pas plus. Et après, tu montes, tu descends, tu dandines. Tu dandines, tu dandines. Voilà.
Déjà ?
Ah ouais. Le macro, c'est rapide comme l'éclair, mon vieux.
Comment ça se fait qu'il y en a autant ?
Eh ben parce que je sais où il se trouve. C'est le secret. Tiens, tu veux essayer, toi ?
Ah non, moi ça m'emmerde. Fais-le, toi. Bon, on rentre, j'ai froid.
Attends, il faut encore qu'on fasse du bar, là. On va aller par là-bas, après. Faut que je ramène 150 euros pour Eric et Michel.
150 euros ?
Ouais.
Pour du poisson ?
Ouais.
Bah attends, mais on continue alors, moi je t'aide.
Attends, déjà, on va se le pêcher celui-là.
Bah je t'aide, papa.
Ouais, viens.
Alors Louis-Marie, pourquoi vous avez choisi ce deuxième extrait ? Qu'est-ce qu'on peut dire justement, peut-être sur la... On va pas tout dévoiler du film, mais sur cette touche, voilà, un film à caractère social, plein de... enfin, original, plein de tendresse et pas misérabiliste, vous nous dites.
Oui, parce que, en fait, malgré la situation dans laquelle se trouve Hervé, puisque c'est lui qu'on suit le plus. Bon, on va parler de Foued aussi, parce qu'il est important le personnage de Foued en Tunisie. Mais Hervé, lui, il pense à une reconversion plutôt heureuse. Il a des problèmes avec son fils. Lui et sa femme ont des problèmes avec leur fils. Période difficile que l'adolescence et quand on est tout jeune adulte. Et pour lui, il est content. Il est content, là, sur ce bateau. Il va former son fils. Et puisqu'il est face à une administration tatillonne, ben, il se dit qu'il va utiliser...
Pourquoi pas le fiston ?
Son fils, ben, lui, il a l'âge pour passer le CAP et le BP, et ils peuvent créer une SARL, et là, il pourra travailler. Alors, il lui montre son savoir-faire. Il lui montre. Et puis, il est, paradoxalement, lui est tatillon, parce que le fils, il a envie de conduire le bateau. Hein, c'est plutôt excitant de conduire le bateau plutôt que de jeter une ligne. Et non, toi t'as pas le permis, tu peux pas le conduire. Après, il lui montre comment pêcher. Et vous voyez que on se rend compte que le fils est intéressé quand il se rend compte que le bar, ça coûte de l'argent. Ça représente 150 euros. Et en fait, c'est pas misérabiliste parce que Parce que cette famille est particulièrement attachante malgré les difficultés qu'elle traverse. Ça se passe, il y a un brin d'humour. Ce brin d'humour incarné par les deux acteurs, Philippe Rebaud qui interprète Hervé et sa femme, c'est Corinne Maziro, le fameux capitaine Marlowe de la série, pour vous donner une idée du visage de cette actrice. Ils sont positifs et ils veulent aider leur fils qui a de vagues idées. Il veut partir à l'armée, mais ça ne les satisfait pas pleinement.
Vent du Nord, un film de Walid Matthar à retrouver donc, et à voir. Et on va faire une première pause et puis on va vous retrouver pour parler de notre chef-d'œuvre humaniste du jour, Secrets et mensonges. Magnifique film s'il en est, de Mike Leigh, on dit, c'est ça ?
Mike Leigh.
Mike Leigh, pardon, de Mike Leigh. Oui, heureusement que vous êtes là pour me dégrossir. Palme d'or du Festival de Cannes. Le grand écran de Vivante Église, c'est donc le thème de c'est l'émission Vivante Église de ce jour avec autour du plateau Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse, émission cinéma, chaque mercredi soir, 19h
20h.
20h, pardon. Deuxième film, chef-d'œuvre humaniste, Secrets et mensonges, Secret and Lies, donc de Mike Leigh, sorti en 1996, qui a obtenu donc la Palme d'Or et qui a valu aussi le prix d'interprétation féminine, donc à celle qui est le personnage principal du film, ou presque, Brenda Blessin. On va commencer peut-être. Est-ce que vous pouvez nous situer juste Ce film, après, on écoutera non pas la bande-annonce, mais un court extrait qui lance l'atmosphère du film.
Et on va découvrir une famille à l'occasion d'un épisode auquel cette famille ne s'attendait pas du tout, et en particulier le personnage incarné par Brenda Blessin, qui est Cynthia dans le film, puisque le film s'ouvre sur des obsèques, et on suit une jeune femme noire, et on comprend qu'elle vient de perdre sa mère.
Mais Hortense.
Et il se trouve que sa mère, c'était sa mère adoptive. Alors, elle va chercher à retrouver sa mère biologique. Et sa mère biologique, c'est Cynthia. Cette femme qui est d'un milieu ouvrier, mais vraiment le milieu ouvrier, au-dessous, c'est la pauvreté intégrale. Elle travaille, elle subvient juste à ses besoins et à celui de sa fille.
Donc ça, c'est l'intrigue principale. Donc Hortense qui part à la recherche de sa mère biologique. Voilà, on va dire, aventure intérieure à la faveur du deuil de sa mère. Elle a déjà perdu son père précédemment. Voilà, une belle femme, femme simple, courageuse, et qui se lance dans cette aventure et qui va du coup découvrir une famille. Alors dans cette famille, il y a un autre personnage important, c'est Maurice. On va écouter un extrait. Maurice est photographe, et vous allez voir là, cet extrait-là, et campe un peu le personnage.
Excusez-moi de vous interrompre, portraitiste, c'est important.
Portraitiste.
Il faut mettre en valeur cette jolie traîne. Voilà, ça y est. Oui, c'est parfait. Oui. Alors, maintenant, comme je vous l'ai dit, ça n'est pas une obligation, mais si vous voulez, vous pouvez me donner une petite lueur dans l'œil. Voilà, voilà, c'est ça. Charmant. Très bien. Un peu plus près. Ne vous en faites pas, ça va aller. Attendez, il y a juste une petite... Voilà. Vous avez un cil sur le nez, ça va pas, ça. Il doit être sur l'œil, pas sur le nez. Oh, mais vous avez un très joli sourire, dites-moi. Très bien, on y va. Vous me gardez ce merveilleux sourire. Adorable. Ce sera tout pour le moment. Bravo, Sarah. Ça, c'est la partie facile.
Voilà, donc c'est une scène qui est au début du film. Donc Maurice est, comme je disais, photographe, particulièrement portraitiste. C'est un homme très attachant. Enfin, moi, j'ai senti que c'était un peu le pivot du film, qui est plein de bonté et plein d'amour, hein, on peut le dire comme ça. Vous vouliez souligner peut-être en d'autres occasions, on voit la bonté de Maurice et qui va faire avancer en fait l'intrigue.
Mais ce qui fait avancer l'intrigue, c'est surtout ce qu'il fait. Lui, le fait qu'il soit portraitiste, parce que vous l'avez dit, il faut parler aussi de son physique, il est assez imposant, et c'est une espèce d'ours mal léché, quoi. Un gros ours mal léché, souvent triste, et on se demande comment il fait pour arriver à faire sourire ses sujets, les gens qui viennent dans son studio de photo pour se faire tirer le portrait. Puisqu'en fait, il est toujours dans son studio, il ne sort pas. Les mariés viennent à eux, les gens qui veulent un portrait, les futurs
mariés. Il sort quand même à la faveur de mariage, on le voit parfois.
Oui, de temps en temps, oui, bien sûr, il fait ça. Mais ce qui est important, c'est ces moments qu'il capte juste dans cette sphère, le huis clos de son studio. Et il est capable, on l'a entendu, de faire sourire, de trouver les petites choses. Oui, le cil, là, oh, il est là, mais il devrait être plutôt sur l'œil, c'est ça, pour arriver à faire changer les gens qu'il photographie. Et en fait, il arrive à les faire sourire, et il arrive, on le voit les tirer justement pour que ces moments où les gens sourient, et après, par voie de conséquence, ce qu'on va découvrir dans la suite de l'histoire, ces moments de bonheur soient plus intenses encore.
Donc, Maurice est marié à Monica, vie de couple, on va dire, qu'on sent difficile ou blessé. Et surtout, donc, c'est comme si deux chemins venaient en parallèle. Ce chemin qu'Hortense fait pour retrouver sa mère biologique, qui se trouve avec donc Cynthia, la sœur de ce Maurice, et Maurice dont le cœur est travaillé et qui entreprend aussi d'une certaine manière un chemin de vérité. On va écouter un deuxième extrait, un petit peu long, où une scène dans la cuisine avec sa femme Monica, où ils ont une discussion qui est probablement assez inhabituelle dans une vie de couple.
Comment était ta mère quand ton père est mort?
Excuse-moi?
Elle a réagi comment?
Je sais pas. J'étais petite, je m'en souviens pas. Elle a fait avec, je suppose, comme tout le monde.
Tu as dû t'occuper de Greg?
Comment ça? Comme ta grande sœur s'est occupée de toi? Non, pas du tout.
Papa n'a plus jamais parlé de maman après qu'elle soit morte.
C'est bien les hommes.
Je lui en ai voulu. À mon avis, il a beaucoup souffert. Il devait avoir du mal à se confier. Je savais pas ce que je ressentais. C'est encore le cas.
Et Cynthia qui devait faire son numéro, ça devait pas l'aider.
Il te manque, Craig?
Pourquoi il me manquerait?
C'est ton frère.
Craig est en Arabie Saoudite.
Ouais.
Manquer, c'est un bien grand mot. Pourquoi? Cynthia te manque? Tu crois que c'est du sérieux entre Roxane et son charpentier?
Bon, elle vient à peine de le rencontrer.
Oh, excuse-moi, mais moi, à son âge, j'étais mariée. Je me demande si elle est au courant.
Quoi? Pour nous?
Qu'est-ce qu'il y aurait à savoir sur nous?
Ouais, tu sais bien.
Comment serait-elle au courant? Ou alors tu lui as dit?
Je lui ai rien dit.
J'espère que Cynthia ne le sait pas non plus.
Non, voyons.
Bon, tant mieux. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'elle est au courant pour Cynthia? Tu sais bien ce qui est arrivé avant sa naissance.
Je sais pas.
Je veux dire, elle a un demi-frère ou une demi-sœur quelque part, il me semble qu'elle a le droit de savoir.
Ça, c'est l'affaire de Cynthia. Tu lui diras rien, toi?
Bien sûr que non.
Bon. Elle aurait pu lui dire, quand même.
Elle ne lui a jamais dit qui était son père?
Personne ne l'a jamais su. Tu crois qu'il lui manque?
À qui?
À Roxane.
Ce qu'on n'a jamais eu peut pas nous manquer.
Tu crois? Je voulais le tuer, ce type. Pauvre Cynthia.
Sainte Cynthia.
Elle a fait de son mieux.
Ah oui?
Oui. M'a donné beaucoup d'amour.
Voilà, extrait un petit peu long, mais on profite du fait que Paul Dima n'est pas là pour s'accorder quelques libertés, n'est-ce pas, mon cher Louis-Marie?
Tout à fait.
Et puis, voilà, bah, il faut savoir prendre du temps.
Non, mais il est important, cet extrait, parce que on comprend la difficulté dans laquelle se trouve Maurice par rapport à ce qu'il éprouve pour sa sœur Cynthia. Et qu'il est pris dans un conflit de loyauté. C'est-à-dire qu'il aime Cynthia, mais il peut pas décevoir sa femme non plus. Mais Cynthia, il faut avouer qu'elle a rien pour elle. Hein, bon.
Elle est pas commode, on va dire.
Elle est pas commode à supporter, surtout.
Un peu criarde.
Oui, voilà, exactement. Elle
avec
parle.
Ses hauts et ses bas.
Elle parle mal. Elle parle mal. Elle conjugue mal les verbes. Donc, elle a un langage, bon, ben, très populaire. Elle s'habille n'importe comment. Bah, elle s'habille comme elle peut, en fait, avec les moyens dont elle dispose.
Elle se laisse un peu aller, quand même.
Et elle se laisse aller. Elle pleure pour un rien. Elle a une voix très haut perchée. Et avec cette voix très haut perchée, elle pose des questions qu'il ne faut pas au moment où il ne faut pas.
Alors, juste, Lumarie, ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'on se disait pendant la pause, c'est que ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que, tout simplement, Maurice invite à changer de regard, en fait, sur ce personnage. Et on se disait que ce film est très prenant, en particulier ce passage dans le film, parce qu'on est tous comme ça, en fait, dans notre quotidien, dans nos histoires familiales, à se regarder de manière biaisée. Et quand à un moment, on change de regard ou quelqu'un nous aide à changer de regard, tout change. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui se passe pour Maurice.
Pour Monica, Maurice, il n'y a pas d'ambiguïté par rapport au regard qu'il porte à sa sœur.
Non, mais il le dit, en tout cas.
Il le dit. Il essaye d'expliquer à sa femme qu'il ne voit pas sa sœur en ce moment, mais que ça le pèse. Ça lui pèse. C'est pour ça qu'il essaye de la faire parler sur son frère. Bah, l'autre, il est loin, il est militaire. Et ça, visiblement...
Ça ne dérange pas.
Ça ne dérange pas, Monica. Mais lui, ça le gêne. Et on va apprendre pourquoi.
Alors, on va écouter un deuxième extrait. Là aussi un peu long, sauf quelques libertés. Voilà, c'est ça, Radio Présence. On prend le temps. Ce deuxième extrait, c'est la fin. Voilà, donc pardon. Si vous ne voulez pas connaître la fin, eh ben, vous n'avez qu'à éteindre la radio et la rallumer dans 5 minutes. Au fil de ce film, vraiment splendide, c'est deux chemins. Alors là, on n'a pas Hortense, mais Hortense qui avance, qui rencontre Cynthia. Donc, cette fille et cette mère biologique qui apprennent à s'aimer et à se connaître. Et puis, au final, tout le monde est réuni dans une réunion de famille.
Parce que
la vérité éclate.
Parce que Maurice va finir par obtenir de sa femme
qu'il puisse
organiser un barbecue pour sa nièce qui va fêter ses 21 ans.
Alors le barbecue a lieu.
Roxane.
Et Hortense, Cynthia, qui ne peut pas s'empêcher de mettre les pieds dans le plat, finit par expliquer qui est cette jeune femme noire dans cette famille blanche qui n'est pas une amie de travail mais qui en fait est sa fille. Voilà, la fille cachée. Tout le monde explose et voilà comment ils avancent.
Je te demande pardon, Roxane. C'est sorti comme ça, chérie. Je voulais pas gâcher ta fête.
Dis-lui, Maurice,
non, lâche-la, chérie. Dis-lui la vérité, c'est tout.
Chérie, je suis tombée enceinte quand j'avais 15 ans. Ton grand-père m'a envoyée dans une institution, c'est vrai, hein, Maurice. Je savais pas qu'elle viendrait à ma recherche, comment je l'aurais su. Mais si tu veux savoir la vérité, je suis contente qu'elle l'ait fait. C'est pas de sa faute, elle y est pour rien, elle voulait même pas venir, elle voulait pas te faire souffrir, et moi non plus. Oh, dis-lui, toi, Hortense.
C'est vrai, elle ne voulait pas vous blesser. Je suis désolée.
Ça va?
Elle a dit que je te reverrai jamais.
Qui a dit ça?
Je n'ai jamais dit une chose pareille. Elle a tout déformé, comme toujours.
Si, tu l'as dit, Monica. Bah, tu t'es trompée, tu vois, parce qu'elle est revenue à m'enchanter.
J'ai toujours pensé que tu aurais dû le savoir, Roxane.
Tu aurais dû lui dire, Cynthia.
Oui, j'aurais dû lui dire, Maurice. Mais j'aurais jamais pensé qu'un jour ce serait nécessaire. Toi, évidemment, tu l'as dit à tout le monde.
C'est de moi que tu parles? Et pourquoi pas? Je suis sa femme, après tout.
Alors pourquoi tu te conduis pas comme sa femme?
Quoi?
Pourquoi tu lui donnes pas d'enfant?
Tais-toi, Cynthia.
Ça regarde Maurice et moi.
T'es une égoïste, Monica. T'en voulais peut-être pas, mais lui, si...
La ferme, maman!
Tu sais pas de quoi tu parles.
Tu crois ça?
Il y a des choses que tu ignores.
Maurice!
Quelles choses?
Dis-lui.
Qu'elle me dise quoi?
Pourquoi tu lui dis pas? Elle ne peut pas en avoir. C'est aussi bête que ça. Elle est physiquement incapable d'avoir des enfants. On a fait tous les examens possibles et imaginables. Elle a été malmenée, manipulée, sondée, elle a été opérée, tout ça pendant 15 ans. Elle ne peut pas avoir d'enfants. Je t'adore, Monica. Mais ça a presque détruit notre amour. Tu le sais bien. Voilà. Je l'ai dit. Où sont la foudre et les éclairs? Des secrets et des mensonges. On a tous mal. Pourquoi on partage pas notre douleur? J'ai passé ma vie à essayer de donner du bonheur autour de moi. Et les trois personnes que j'aime le plus au monde se détestent toutes. Je suis au milieu. J'en peux plus. J'en ai assez. Excusez-moi, Hortense. Vous êtes quelqu'un de très courageux.
Quelqu'un de très bête, oui.
Pas du tout. Vous vouliez savoir la vérité. Vous étiez prête à en subir les conséquences. Je vous admire pour ça.
Voilà, c'est pareil, c'est un peu long, mais bon, pour ceux qui ont vu le film, ça leur rappellera bien des souvenirs, et les autres, j'espère que ça leur donnera surtout envie de le voir. Ce que j'ai trouvé très beau, et c'est là-dessus que je voulais vous lancer dans cet extrait, c'est deux choses, alors je fais mon Paul Dima, mais qui pour moi sont enfin profondément chrétiennes. La première, on va peut-être commencer par la toute fin, c'est ce qu'il dit à Hortense, il lui dit « Je vous admire parce que vous aviez entrepris un chemin de vérité, il fallait beaucoup de courage, voilà, vous êtes parachuté tout d'un coup dans cette famille et ce moment dramatique ». Et donc il salue l'œuvre de vérité qu'elle fait et qu'elle permet aussi de faire à l'intérieur de cette famille. L'autre chose, c'est cette phrase, on a tous des secrets et des mensonges, on souffre tous, pourquoi est-ce qu'on partage pas notre douleur? Voilà, c'est deux, vraiment deux très très beaux, deux très belles phrases. Voilà.
Oui, oui, c'est ce qui est très fort et c'est là où le titre prend tout son sens. On le perçoit au long du film, là. Justement, on parlait tout à l'heure des moments où Maurice fait ses portraits. Là aussi, on sent qu'il y a des choses derrière, mais ce sont des événements secondaires. Et là, c'est vraiment le moment, c'est ce qu'on appelle au cinéma le climax, c'est l'apogée du film. Il se trouve que l'apogée du film arrive à la fin. Mais
dans la vie spirituelle, on appelle ça le kairos, ouais. Le moment favorable.
Exactement. Et donc, c'est... peu importe, alors, on va partager la douleur, et puis après, c'est ce que dit Maurice, et puis après, finalement, c'est pas grave que Cynthia soit blanche et que Hortense soit noire. On s'en fiche de cette réalité, que ce soit possible ou pas possible, c'est égal quand on est spectateur. Mais qu'elle va s'attacher vraiment à cette nouvelle mère. Parce que, en fait, qu'est-ce qui l'a poussé à chercher cette nouvelle mère? C'est la solitude. Avoir quelqu'un qui pense à soi, penser à quelqu'un et penser à elle, cette relation profonde. Et cette relation profonde, finalement, elle va la trouver. Grâce à ce moment d'explosion où, finalement, le film finit sur une très belle scène, et là, on n'en parlera pas.
On n'en parlera pas quand même. En tout cas,
il faut laisser le spectateur la découvrir.
Ils arrivent enfin à s'aimer parce qu'ils ont fait la vérité et parce qu'ils ont partagé ensemble leur douleur. Voilà. Film magnifique, Secret et mensonge. De Mike Leigh, sorti en 1996, Palme d'Or, au Festival de Cannes. On fait une deuxième pause. C'est d'ailleurs un extrait de la bande sonore du film dont on va parler maintenant.
Oui.
Exodus, Gods and Kings, de Ridley Scott. L'histoire de Moïse, tout simplement.
Thank you. présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand écran de Vivante Église, c'est votre rendez-vous cinéma de ce matin, rendez-vous mensuel avec Autour du Plateau. Par hasard, si vous nous prenez en cours de route, Louis-Marie Soler, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse, le mercredi soir à 20h. Ça va finir par rentrer, Louis-Marie. Pourtant, je suis souvent encore là, donc je vous vois en studio, je devrais m'en souvenir. Même si je n'ai pas toujours le loisir de vous écouter. Troisième film, chef-d'œuvre spirituel, c'est le choix que vous aviez fait avec Paul Dima. Exodus, Gods and Kings. En français, ça donne l'Exode, Dieu et Roi. C'est tout simplement, j'ai envie de dire, l'histoire de Moïse. Donc, pour les chrétiens, l'un de nos pères dans la foi, à qui Dieu se révèle, Dieu se manifeste. On va peut-être commencer par écouter la bande-annonce et puis vous allez nous situer l'histoire. Là, je ne sais pas s'il y a besoin tant que ça de la resituer, quoique, et nous parler du réalisateur Ridley Scott.
Je vois toujours en vous les deux garçons qui ont grandi côte à côte comme des frères, veillés l'un sur l'autre. Toujours.
Quelque chose ne va pas, tu l'as toujours senti. Tes parents ne t'ont jamais dit la vérité.
La vérité.
L'année de ta venue au monde, une prophétie a annoncé la naissance d'un chef qui nous libérerait. Ce chef, Moïse, c'est toi.
400 années d'esclavage. La situation ici a empiré. Comme tu es mon frère, tu dois les libérer.
Parce que c'est une menace.
Oui !
Moïse, je veux qu'il soit tué. Sa famille aussi.
Quelle est la plus importante chose dans ta vie ?
C'est toi. Quand partiras-tu loin de moi ?
Jamais. Nous verrons bien qui sera le plus redoutable tueur. Toi, moi.
Ramsès ! Cherches-tu à m'humilier ? Parce que tu n'y arriveras jamais !
Je suis venu t'annoncer qu'une chose va se produire. Tout ça est plus puissant que toi et moi. Ce n'est rien de moins que la survie de l'Égypte qui est en jeu.
Qui écoutes-tu alors ?
Voilà, ça c'est la bande-annonce ou presque d'Exodus Gods and Kings. Donc je resitue l'histoire pour ceux qui par hasard ne connaîtraient pas l'histoire de Moïse. Cet enfant récupéré dans le Nil par des membres de la famille de Pharaon, élevé comme Pharaon, comme le fils de Pharaon lui-même. Ils sont Ramsès, donc deux princes qui sont frères, on les voit donc qui se connaissent, qui s'aiment, et petit à petit donc Moïse fait ce chemin de reconnaître en fait ses origines, un chemin du coup d'exode, et Dieu se manifeste à lui, à Moïse, comme il est dit dans l'écriture, et lui demande d'aller voir Pharaon pour libérer son peuple. Je ne sais pas si tout est historiquement très juste, je commencerai peut-être par cela. C'est vrai que faire un film là-dessus, c'est probablement une sacrée aventure, surtout quand c'est un film comme ça qui ressemble à un péplum, enfin qui est un péplum.
C'est un péplum.
C'est un péplum. Voilà, j'ai juste noté qu'à sa sortie, on avait noté certaines erreurs religieuses et historiques. Donc c'est peut-être pas pour ça d'abord qu'il est intéressant. Enfin, il faut pas trop lui en demander. Entre autres, tous les Égyptiens sont de couleur, alors que les Juifs sont blancs, donc ça, on a trouvé qu'il y avait des empreintes sionistes dans ce film. Il travaille à la construction des pyramides, alors les pyramides n'ont pas été construites à cette époque. Bref, ça n'est pas là qu'est l'essentiel. Où est l'essentiel, Louis-Marie, alors ?
Ben, l'essentiel, c'est ce qu'a voulu retenir Ridley Scott, parce qu'il avait quand même un cahier des charges à respecter par rapport à la production, c'est-à-dire que son film ne devait pas être trop long. 2h31 pour une fresque comme celle-là, c'est peu. Les Dix Commandements, le fameux film de référence de Cécile B. 2000, auquel il a évidemment été comparé, est bien plus long que ça, plus de 3 heures. Et il s'est concentré, Scott, sur la confrontation fraternelle entre Moïse et Ramsès. C'est ça, le nœud du film, puisque on ne voit pas le bébé abandonné sur le Nil, on ne voit pas tout ça. Ils sont déjà adultes quand le film commence.
Ramsès, donc qui, je ne sais pas si le pharaon était comme ça, mais un homme, enfin dire sûr qu'il est un dieu, et un autre.
C'est comme ça qu'il est élevé quand même.
Et un autre qui lui dit que Dieu lui a parlé. Donc oui. C'est, enfin voilà, c'est vraiment la confrontation aussi de.
Ils ne peuvent pas s'entendre.
La révélation biblique au monde polythéiste. Moi, ce que j'ai trouvé, enfin, il y a plein de choses évidemment très très frappantes et très intéressantes, c'est que c'est cette image qui est prise de Dieu. Puisque Dieu se révèle à Moïse dans le buisson ardent, et en fait, à côté du buisson, il y a un enfant qui apparaît. Voilà, Dieu a un visage d'enfant. Là aussi, semble-t-il, ça a beaucoup choqué. Je crois d'ailleurs que c'est pour cela que le film aurait été interdit dans certains pays. Vous nous en direz peut-être un mot. C'est un enfant avec une très grande autorité, cet enfant. En même temps, évidemment, l'innocence d'un enfant. Et avec une très grande détermination aussi à agir pour son peuple et contre Pharaon.
Oui, c'est-à-dire que donner cette image de Dieu, c'est toujours délicat, donner une image de Dieu.
C'est la première fois que je voyais ça, en tout cas.
Oui, on préfère quelque chose de plus solennel. Lui vient d'en haut, le buisson ardent, une voix seulement aurait suffi, un peu comme dans le film de B2000. Quoi. Là, c'est un enfant et il y a des discussions en fait entre Moïse et cet enfant.
Franche, hein.
Ben oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça, il n'est pas surprenant que ça ait pu choquer. Alors, ça donne un relief particulier puisque là aussi, ça peut gêner. On peut penser que l'enfant est capricieux. Mais c'est Dieu. Moïse. Et là, Moïse discute finalement pied à pied avec Dieu, justement parce qu'on lui a donné cette apparence.
Pourquoi est-ce qu'il a été interdit de diffusion dans certains pays? À cause justement des soupçons sionistes du film?
Oui, aussi. Il y a les soupçons sionistes. Vous en avez parlé avec le parti pris des Égyptiens à la peau mate, noire, et des Juifs, le peuple élu, blanc.
Voilà, en tout cas, j'ai par exemple noté une chose, je sais pas si les biblistes, comment dire, les grands biblistes, je sais pas s'il y en a certains qui nous écoutent seront peut-être choqués par ce que je vais dire, mais je me suis toujours demandé comment ce peuple avait fui. Il n'est pas parti du jour au lendemain sans que les autorités égyptiennes ne s'en rendent compte. Et là, c'est très bien figuré. À un moment, voilà, Pharaon rend les armes et il y a 400 000 personnes qui commencent à traverser le royaume pour fuir. On va écouter un deuxième extrait. Ramsès s'interroge donc sur l'identité de Moïse et donc il y a un moment de vérité.
Faites-la entrer, faites-la entrer, Myriam. Viens là, assieds-toi, assieds-toi. Bien. Je vais te poser des questions qui vont peut-être te sembler étranges, mais contente-toi d'y répondre et de dire la vérité. Comment as-tu connu Moïse?
Tu sais bien comment je l'ai connu.
Alors tu n'es pas sa sœur, comme on dit?
Bien sûr que non.
Pose ton bras sur la table.
Ramsès. Arrête tout de suite.
Arrête tout de suite, sinon quoi?
C'est un conseil que je te donne.
Tu es sûr de ce que tu t'apprêtes à faire? Si tu comptes t'en servir, fais-le. Alors? Alors je peux continuer. Myriam, je te repose la question une dernière fois. Et si tu réponds encore non, pardonne-moi pour ce qui se passera ensuite. Est-ce que tu es sa sœur?
Non.
Oui!
Alors là, on fait un petit peu de flashback. Donc Ramsès demande en fait à celle qui l'aurait élevée, en fait, à sa nounou, de lui dire si oui ou non elle est sa sœur. Et donc cette femme refuse et Moïse dit cela alors que sur le moment il n'en est pas tout à fait sûr. J'ai choisi ce moment Parce que y a... ce qui est assez frappant quand on voit Moïse, en fait, c'est qu'il est, il est complètement dépassé par ce qui lui arrive. D'abord par cette histoire qu'il découvre. Tout son univers, en fait, s'écroule. Il part donc en exode, il marche comme ça au désert. Il finit par tomber sur une tribu dans le désert et par se marier. Et Dieu, après, lui parle. Et Dieu lui demande de quitter donc femme et enfant. Il y a... Alors, probablement que ça parlera à un certain nombre de croyants. Quand Dieu entre dans une vie, il prend de plus en plus les commandes. Et cette relation devient de plus en plus première, en fait, sur toutes les autres réalités. C'est-à-dire votre première histoire, on va dire, sociale. Je pense, par exemple, à tous les gens qui se convertissent. Parfois, les musulmans qui se convertissent, qui se retrouvent pris dans une situation familiale extrêmement compliquée. Et parfois, l'appel, ou en tout cas la relation à Dieu, qui est première, même à l'intérieur de vie conjugale et familiale. Est-ce que ça vous a frappé, cette... Est-ce que, pour le coup, ce film est réussi sur ce point-là, vous trouvez, voilà, la primeur de la relation à Dieu? Il y a comme une grande autorité de cette relation.
Effectivement. Et il l'illustre, Ridley Scott l'illustre, par justement le... ces morceaux de bravoure que va qu'on connaît et que va devoir affronter Moïse en guidant le peuple et poursuivi par l'armée. Ce qu'on attend de, c'est-à-dire que Ridley Scott fait de cette histoire une histoire épique. C'est une histoire épique, mais là il l'en et il fait de ce Moïse un homme habité. À certains moments, on peut penser ça, même qu'il est enragé, même au point de...
Il paraît que certains acteurs auraient dit qu'il était presque schizophrène. Alors, je ne sais pas si tout
c'est ce qu'on dit le plus souvent des performances de Christian Bale, qui interprète donc Moïse, et le charisme. Alors, c'est assez bien répondu par la performance de Joel Edgerton, qui joue le rôle de Ramsès, qui lui plutôt est plus immature. Il est plutôt vulnérable, très influençable. Et l'autre sait qu'il a une mission à accomplir et il part. Rien ne pourra l'arrêter. Rien.
Voilà, un chef de guerre qui est pris dans un péplum, j'allais dire, mais non, qui est pris dans une histoire qui le dépasse. Voilà, une épopée, comme vous dites. Peut-être pour finir, est-ce qu'on peut donner les dates du prochain Ciné Parole, ou faut-il renvoyer au site internet?
Non, je vais vous donner ça tout de suite, le temps de retrouver des notes. Mais c'est ce ne sera pas Vent du Nord, le film dont on a parlé. Mais le film dont on parlera dans le ciné-parole s'intitule Foxtrot. C'est un film israélien signé Samuel Maoz. Et on le fera début mai.
Je donnerai les dates dans l'Église d'actualité, c'est promis.
J'ai plus large, je
c'est pas
suis
grave,
perdu.
C'est pas grave,
je suis complètement perdu, excusez-moi de balbutier.
J'ai pas bien fait mon travail, voilà. Merci Louis-Marie de votre patience et votre collaboration. Toutes les informations sur ce ciné-parole à retrouver donc sur notre site internet. Merci beaucoup. Et merci à Paul Desmains, même s'il n'était pas présent aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi. Thank you.